VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, un manifestant a été tué en Guinée en marge d'une manifestation de l'opposition bloquée par les forces de l'ordre. Au moins 6 personnes ont été tuées au Nigeria lors d'affrontements entre chiites et forces de l'ordre. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar devrait faire son retour à Djouba demain. Donald Trump est attendu à Pittsburgh cet après-midi pour commémorer les victimes de la fusillade du week-end dernier. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, en Guinée, un jeune manifestant a été tué à Conakry lors de heurts avec les forces de l'ordre. La marche de l'opposition a été empêchée. La mort de ce manifestant a été confirmée par le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Sélou Dalane Diallo, qui lui a été empêché de quitter son domicile. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Les forces de l'ordre nigérianes ont tiré à balles réelles sur les manifestants d'un groupe radical chiite à Abuja. Au moins 6 personnes ont été tuées en 3 jours. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Selon le porte-parole du mouvement islamique du Nigeria, Ibrahim Moussa, les forces de l'ordre ont tiré alors que les manifestants se dirigeaient vers le centre-ville d'Abuja. Les manifestants jetaient des pierres en direction d'un barrage policier. Selon lui, la police a tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes pour stopper leur avancée. 6 blessés ont été évacués d'urgence. Depuis samedi, 6 personnes ont été tuées dans des circonstances similaires lors de manifestations de ce mouvement chiite en soutien à leur dirigeant Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis 3 ans. L'armée a déclaré avoir tué 3 manifestants samedi et 3 autres lundi pour contrer une attaque des membres du mouvement islamique qui utilisaient, selon elle, des armes à feu et des cocktails Molotov. L'Yémen a démenti cette version, affirmant que les soldats avaient tiré sur des manifestants pacifiques et tué 21 personnes durant la seule journée de lundi.
Au Cameroun, 16 partisans de l'opposant Maurice Kamto ont été libérés. Dimanche matin, ces militants avaient été arrêtés sur l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre les résultats de la présidentielle. Maurice Kamto conteste les résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier où Paul Biya a été réélu pour un 7e mandat avec plus de 71% des suffrages. Le président Paul Biya qui a d'ailleurs reçu une lettre de félicitations pour sa réélection par son homologue français. Le président Macron a également appelé le président camerounais à prendre des initiatives au plus vite pour résoudre la crise dans les régions anglophones du pays. Un missionnaire américain a succombé à ses blessures à l'hôpital de Bamenda. Son véhicule a été criblé de balles aujourd'hui à Bamboui, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun. Les deux régions anglophones sont le théâtre d'un conflit entre des séparatistes et l'armée camerounaise. Direction la Mauritanie à présent, où le chef d'état-major de l'armée a été nommé ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement formé par le nouveau Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir. Le général Ould Ghazouani est un ami personnel du président Aziz, avec qui il a conduit notamment le coup d'état en 2008. En RDC, l'opposition au sein de l'UDPS a dit douter de la tenue des élections fin décembre et qualifie de mise en scène la remise à la CENI de véhicules de l'armée pour aider à la tenue du scrutin. Hier, la CENI a réceptionné à Kinshasa 150 camions et une dizaine d'avions et d'hélicoptères de l'armée pour acheminer le matériel électoral. RDC toujours, les écoles de 2 villes jumelles du Nord Kivu ont décrété une grève illimitée pour protester contre les massacres et des enlèvements dans la région de Beni. Dans la nuit de lundi, à nouveau, 4 personnes ont été tuées par des présumés rebelles ADF et 2 autres ont été brûlées dans leur maison dans la localité de Makumbu Mbo. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, appelant tous les acteurs sur place à intensifier la lutte contre la maladie, notamment dans les zones d'hostilité. Proposée par l'Éthiopie et la Suède, la résolution engage le gouvernement congolais, l'OMS et les intervenants à plus de transparence. Le texte rappelle qu'il revient au gouvernement congolais, au premier chef, de protéger les civils, notamment des crimes de guerre. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar doit rentrer demain à Djouba après plus de 2 ans d'absence. C'est ce qu'a annoncé l'un de ses porte-paroles, Lam-Paul Gabriel. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Riek Machar se rendra à Djouba pour la cérémonie de paix. Son grand rival, le président sud-soudanais Salva Kiir, et plusieurs chefs d'État de la région sont attendus à cette rencontre, prévue dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 12 septembre à Addis Abeba et destiné à mettre fin à presque 5 années de guerre civile. Selon cet accord, M. Machar doit retrouver son ancien poste de vice-président. Il n'avait remis les pieds à Djouba depuis juillet 2016. De violents combats l'avaient contraint à l'exil. Machar craint sa sécurité, mais la vérité est là. Nous sommes pour la paix et ce que nous essayons de faire, c'est de bâtir la confiance, a déclaré Lam-Paul Gabriel, précisant qu'il voyagerait avec une 30aine d'hommes politiques et 100 soldats. En avril 2016, il était déjà revenu à Djouba dans le cadre d'un accord de paix conclu en août 2015. Son retour avait donné lieu à de longues tractations sur le nombre et l'équipement des soldats qui devaient l'accompagner.
La 11e édition du FIMA, le Festival international de la mode africaine, sera organisée du 21 au 24 novembre à Dakhla, une ville touristique du Sahara occidental contrôlée par le Maroc. Tous les 2 ans, le FIMA a lieu habituellement à Niamey au Niger, mais la pression des islamistes aura été trop forte pour les organisateurs. Angela Merkel a appelé ce mardi les entreprises internationales à investir davantage en Afrique plutôt que de tout miser sur l'Asie. Berlin accueille une conférence sur les investissements privés en Afrique appelée Compact with Africa. Les détails avec Nanit Talani.
Pendant de nombreuses années, nous avons été très concentrés sur l'Asie. Je pense qu'à l'avenir, le regard doit davantage se tourner vers l'Afrique, a déclaré la chancelière Angela Merkel. Elle estime qu'avec ses 54 pays, le continent africain dispose d'un énorme potentiel de croissance. Elle a par ailleurs invité les dirigeants africains à participer à la création d'un nouveau fonds de développement destiné à aider les petites et moyennes entreprises d'Europe et d'Afrique à investir sur le continent. L'objectif est de créer des emplois pour les Africains, atténuer la pauvreté qui, conjuguée à l'instabilité politique et à la violence, a incité un grand nombre de jeunes à se diriger vers l'Europe. L'Allemagne a déjà introduit des incitations fiscales pour que ses entreprises installent des usines en Afrique. 12 pays africains participent à cette initiative. Il y a 2 semaines, le Togo a décroché le financement pour l'installation de 100 000 systèmes solaires domestiques hors réseau. Cette année, Volkswagen a ouvert sa première usine d'assemblage de voitures au Rwanda.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump et son épouse Melania sont attendus cet après-midi à Pittsburgh, où 11 personnes ont été tuées ce week-end pour se recueillir avec la communauté juive de la ville. Une partie de cette communauté l'invite à dénoncer ce qu'elle appelle le nationalisme blanc. Nous écoutons les précisions de Jacques Aristide.
L'heure est au recueillement à Pittsburgh avec les funérailles des premières victimes de ce qui est désormais connu comme la pire tuerie antisémite jamais perpétrée aux États-Unis. L'auteur du carnage, Robert Bowers, 46 ans, a tué 11 fidèles et fait 6 blessés samedi dernier dans la synagogue Tree of Life avant d'être arrêté. Il a reconnu les faits hier devant un juge qui l'a placé en détention sans possibilité de libération sous caution. D'après la Maison-Blanche, le président Trump va dans cette ville meurtrie de Pennsylvanie pour exprimer le soutien du peuple américain. Outre son épouse, sa fille Ivanka, convertie au judaïsme, et son gendre Jared Kushner, lui-même juif, ont également prévu de faire le déplacement. Plus de 250 personnes ont dit qu'elles participeraient à une marche silencieuse pour protester contre cette visite présidentielle. Le rabbin Jeffrey Myers, qui était présent dans la synagogue lors de la fusillade, affirme de son côté que M. Trump est son président et qu'il est bien sûr le bienvenu.
Toujours aux États-Unis, à une semaine des élections cruciales de mi-mandat, le président Donald Trump a annoncé vouloir mettre fin par décret au droit du sol. Jusqu'à présent, tout enfant né sur le territoire américain a automatiquement la nationalité américaine. La remise en cause de ce principe inscrit dans la 14e amendement de la Constitution devrait cependant se heurter à des obstacles juridiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Le Cameroun vise la création d'un peu plus de 152 000 emplois dans la production et la transformation de la noix de cajou entre 2019 et 2023. La stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de l'Anacard a été récemment élaborée avec le concours de la coopération allemande. Pour ce faire, il faudra créer 150 000 hectares de plantations d'anacardiers dans les principaux bassins de production que sont les trois régions septentrionales du Cameroun et la région de l'Est. Le Gabon lance son 12e appel d'offres pour l'obtention des permis d'exploration en eau peu profonde et profonde lors de la 25e semaine africaine du pétrole au Cap en novembre 2018. Le nombre de blocs concernés n'est pas encore connu, mais concerne une superficie totale de 12 000 km² dans le nord et le sud du pays. Quatrième producteur de pétrole d'Afrique, le Gabon est confronté à l'arrivée à maturité de plusieurs périmètres de production. Le gouvernement encourage les initiatives visant à stimuler la production et à diversifier avec le gaz naturel. Et puis en Égypte, l'Ekela Power, une compagnie énergétique, sollicite 81,4 millions de dollars auprès de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Ce financement servira à la construction d'une centrale éolienne de 250 MW dans le golfe de Suez. Le coût total de construction est estimé à 326 millions de dollars. C'est dans le cadre de la politique énergétique du pays, cherchant à satisfaire 20% des besoins énergétiques grâce aux renouvelables d'ici à 2020.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Osimhen de retour avec le Nigeria contre l'Afrique du Sud.
Oui, le patron des Super Eagles, Gernot Rohr, a dévoilé sa sélection pour affronter l'Afrique du Sud lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Victor Osimhen, meilleur buteur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2015, fait son retour chez les A. On note aussi la première convocation de Samuel Chukwueze, l'attaquant de Villarreal. Le choc de novembre pourrait bien décider du premier pays à obtenir son ticket pour le Cameroun dans le groupe E. Le Nigeria compte 9 points devant les Bafana Bafana, 8 unités.
Le Kenya aussi se prépare pour ses éliminatoires.
L'équipe nationale kenyane sera en stage la semaine prochaine malgré la confusion qui entoure la suspension de la Sierra Leone. Le président de la Fédération kenyane de football, Nick Mwandwa, a dit qu'il n'a pas reçu une notification officielle dans le sens de l'annulation de ce match. La CAF avait annulé la double confrontation contre le Ghana en raison de la suspension de la Sierra Leone par la FIFA pour ingérence du politique dans le foot après la destitution de la présidente de la Fédération Sierra Leonaise de football et de son secrétaire général par le gouvernement.
En Europe, Solari a dirigé son premier entraînement.
Et oui, nommé entraîneur intérimaire du Real Madrid en remplacement de Rulén Lopetegui, Santiago Solari a dirigé son premier entraînement avec l'équipe première à la veille du déplacement en 16e de finale aller de la Coupe du Roi. Dans une ambiance plutôt détendue, les joueurs madrilènes ont pris part à plusieurs exercices sous l'œil de l'ancien technicien de la réserve. Selon les règlements de la Fédération espagnole, l'intérim de Solari ne peut durer que 14 jours, après quoi le Real sera contraint soit de le nommer définitivement, soit de choisir un autre entraîneur.
Quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain. Klay Thompson a battu le record de panier à 3 points.
Déjà détenteur du record de points sur un carton depuis 2015, l'arrière des Warriors a battu le record de 13 paniers à 3 points en un seul match, un record établi par son propre coéquipier Stephen Curry. Klay Thompson a réussi 14 tirs hors de l'arc et propulsé la large victoire 149 à 124 de Golden State face aux Chicago Bulls avec un total de 52 points inscrits. Golden State conforte ainsi sa première place de la conférence Ouest.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Guinée, l'opposition n'a pas pu organiser sa marche de protestation dans la capitale. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène devant le domicile du chef de file de l'opposition pour l'empêcher de sortir. La circulation reste perturbée sur la route par des jeunes qui ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Nous faisons le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Les forces de l'ordre, décidées à faire respecter l'interdiction de la marche par les autorités locales, se sont vite déployées devant le domicile de Sélu d'Alain Diallo. Selon le directeur national des unités d'intervention de la police, il ne s'agit pas du confinement, mais d'assurer la sécurité du chef de file de l'opposition, général Ousmane Bafoué Camara.
Ils n'ont pas aimé ce que nous avons fait, mais ça va dans l'intérêt du chef de file de l'opposition, parce que même, je suis sûr, il a des militants très engagés, mais qu'ils sachent et qu'ils le reconnaissent, il y a des badauds qui s'infiltrent, qui ne sont de nul bord. Ils quittent les ghettos, ils remontent. Au fur et à mesure que le soleil tape, leur cerveau bouillit et ils agissent comme ils veulent. On n'a aucun intérêt de porter atteinte à sa vie, qu'ils sachent. Nous sommes aussi là pour assurer sa sécurité.
L'opposition accuse le gouvernement guinéen d'avoir fait recours à la force pour empêcher une grande mobilisation. Son chef pense que le pouvoir a peur de lui. C'est Ludalen Diallo.
C'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de la liberté, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous ne seriez pas là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher un citoyen de sortir de chez lui, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu revenir. Est-ce que ça, c'est normal? Pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la marche, parce qu'on sait que si elle sort, si l'opposition sort, toute la population de Conakry va sortir.
Les Guinéens suivent avec attention la crise politique dans le pays et dans les rues de la capitale. Certains ont accepté de se prononcer au micro de la Voix de l'Amérique.
Je pense qu'objectivement, ce n'est pas une bonne chose pour un pays. Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut manifester dans tout état de droit et c'est ce qui est recommandé. Mais quand une manifestation paralyse carrément un pays, je pense que là, c'est une mauvaise chose pour les pays.
Nous avons déjà un président en place. Une date est prévue pour 5 ans de mandat. Ce que je dis au chef du file d'opposition, de rester calme jusqu'à la date prévue.
Ça provoque non seulement de la pagaille dans le pays, mais aussi ça met des choses en retard aussi.
Les opposants au régime d'Alpha Condé n'entendent pas mettre fin aux manifestations. Ils protestent depuis quelques jours contre la violation d'un accord sur l'installation des exécutifs communaux. Selon eux, cet accord signé le 8 août est violé par la mouvance présidentielle qui cherche à obtenir plus d'exécutifs communaux. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elles ont lieu mardi prochain, même si le vote anticipé a déjà démarré. Elles concernent les deux chambres du Congrès américain et, comme d'habitude, se tiennent à la mi-mandat de chaque président du pays. Que faut-il savoir de ces élections? Quels en sont les enjeux? Que vont-elles signifier pour le président Donald Trump et pour son agenda, dont sa politique étrangère? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Au Gabon, le parti au pouvoir a raflé 98 des 143 sièges de l'Assemblée nationale lors des élections législatives des 6 et 27 octobre. Les partis affiliés à la majorité ont aussi remporté quelques sièges. L'opposition a gagné au total 17 sièges, mais Jean Ping a boycotté le scrutin. Ces législatives, plusieurs fois reportées, étaient le premier scrutin d'importance depuis la présidentielle de 2016, marquée par des violences meurtrières. Hier. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Libreville l'analyste politique, le docteur Auguste Eyene Essono.
L'opposition gabonaise potentiellement un avenir, si et seulement si on lui donne la place, si et seulement si une vraie démocratie se développe dans ce pays, lui donne la place qu'elle mérite. L'avenir de l'opposition se trouve dans la possibilité qu'elle va avoir de ne pas considérer que le scrutin de 2016 fait partie du passé. Parce que vous savez, dans ce pays, nous vivons toujours sur le contentieux. Du moins, lorsqu'on fait une analyse sociologique, le Gabon vit toujours sur le contentieux de 2016. La majorité de Gabonais considère toujours que l'élection de 2016 a fait élire Jinping et que Jinping n'a pas, d'une certaine façon, n'a pas joué de la légitimité que le peuple gabonais lui a reconnue à travers le suffrage. Les Gabonais sont restés sur ce contentieux-là parce qu'ils considèrent que le pouvoir a été usurpé.
La vraie opposition se joue au Parlement. Jinping a boycotté les législatives. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de sa part?
Non. Jinping est sur l'idée simple et légitime que 2016 a été caractérisé par un vote massif en sa faveur et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, ni en 2016, ni en 2000. À partir de ce moment, il est tout à fait attendu et légitime que Jinping et ses partisans considèrent que l'histoire s'est arrêtée en 2016. J'estime qu'on ne peut pas parler de boycott à partir de ce moment-là.
Est-ce que l'opposition n'apparaît pas aujourd'hui plus isolée que jamais?
Le combat que mène cette opposition est surtout un combat qui porte le sceau des bases de souveraineté, des causes populaires. Vous savez, vous pouvez gérer un pays aussi longtemps que vous voulez. Si vous gérez un pays sans vous soucier de ce que les causes populaires adhèrent à votre gouvernance ou pas, si vous ne vous souciez pas de cette question, vous pouvez durer longtemps, aussi longtemps que vous voulez. Toujours est-il que le pays que vous gérez ou le pays que vous prétendez gérer, ce pays, historiquement, est en difficulté. À partir de ce moment, ce n'est pas l'opposition qui est isolée, mais c'est plutôt le pouvoir en place qui est isolé en interne.
Mais une partie de l'opposition a participé à ce scrutin. L'opposition se disperse.
Oui, je peux vous le concéder. Il y a ce qu'on appelle ici l'opposition au service. Il y a ceux qui s'opposent au gouvernement qui est mis en place et qui, en fait, sont des alliés autour d'intérêts qui parfois sont obscurs, des intérêts non pas politiques, mais des intérêts politiciens.
C'était le docteur Auguste Eyene Essono. Il était joint à Libreville.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon les données de la Banque mondiale, Madagascar, une ancienne colonie française, est l'un des pays les plus pauvres du monde avec un taux de pauvreté de 76,2%. Alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 7 novembre prochain s'intensifie, certains, parmi les plus pauvres de la société malgache, semblent avoir du mal à s'intéresser au scrutin. Arzuma Compaoré.
Debout depuis 4 heures du matin, Claudine est à la recherche de bouteilles en plastique, de pots de yaourt et d'autres contenants vides pour pouvoir les revendre. Nourrir sa famille étant sa priorité numéro 1, l'élection présidentielle à venir est la dernière chose à laquelle elle pense.
Si je votais un jour, je voterais pour les poubelles. C'est ce qui nous fait vivre. Les ordures nous ont toujours aidés, que ce soit avec de la nourriture ou comme moyen de gagner de l'argent. Pourquoi devrais-je être intéressée par un politicien?
Aujourd'hui, Claudine a vendu 20 bouteilles en plastique pour 1000 AR, soit 25 centimes d'euros. En un mois, elle pourrait gagner jusqu'à 20 euros, soit la moitié du salaire minimum à Madagascar. Avec ce qu'elle a gagné aujourd'hui, Claudine peut acheter 100 grammes de riz, de quoi nourrir 6 bouches. Mais ce riz, elle ne pourra pas le préparer aujourd'hui.
On nous a volé notre marmite. Mais nous avons déjà acheté du riz ce matin. Nous allons donc cuisiner demain. Ce soir, nous allons nous coucher affamés.
Pour Claudine, peu importe qui gagne les élections. Elle ne pense pas qu'un changement de pouvoir affectera quoi que ce soit dans sa vie. En revanche, son ami Raymond est convaincu du pouvoir de la politique.
Vous devez aller voter le 7 novembre parce que si vous n'allez pas voter, le candidat que vous préférez ne peut pas être élu. Je vote pour le candidat dont le programme m'a convaincu. Quelqu'un qui défendra le moins nanti en termes de mesures de santé et de sécurité.
Madagascar est le seul pays à s'être appauvri depuis l'indépendance en 1960. 90% des Malgaches vivent avec moins de 3 dollars par jour. Et malgré l'optimisme de son ami, Claudine reste difficile à convaincre. À l'approche des élections, les politiciens semblent bien l'avoir déçu.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La presse mauritanienne est-elle en train de mourir à petit feu? En tout cas, les acteurs du secteur sont formels, la presse va mal. Et ses difficultés sont légion, comme a pu le constater John Lyndon, notre envoyé spécial à Nouakchott.
Depuis 2008, Moussa Ould Ahmed dirige le groupe de presse Biladi, un groupe qui comptait à l'époque deux éditions de journaux, français et arabe, de même qu'un site internet. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de son entreprise, d'où cet appel. Moussa Ould Ahmed.
Je suis toujours prêt à lancer cet appel parce que je sais que la presse mauritanienne est une presse qui est en train de mourir. C'est une presse qui n'a plus les moyens de jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est une presse qui n'a plus les moyens de faire les débats dans le pays. Et c'est une presse qui est vraiment en train de mourir, qui a besoin d'être sauvée.
Mais pour Moussa Ould Ahmed, si son groupe a chuté, le gouvernement y est pour beaucoup.
Cela a été accentué par le fait que l'actuel gouvernement mauritanien a donné instruction à tous ses services de s'abstenir de faire de la publicité dans la presse privée, de s'abstenir de faire les abonnements. Et puis on s'est trouvé aujourd'hui dans cette situation de la presse qui est une situation carrément catastrophique.
Des difficultés visibles ici au siège du quotidien de Nouakchott, un journal indépendant d'information générale. Moussa Sambassi, son directeur de publication et président du RPM, le regroupement de la presse mauritanienne, accuse également les autorités gouvernementales. Moussa Sambassi.
Les autorités qui ne sont pas tellement contentes, on va dire, de ce que fait la presse mauritanienne, et donc du coup qui lui met des bâtons dans les roues, qui ajoute aux difficultés déjà de la conjoncture, des difficultés au plan national.
Tous nos efforts pour obtenir la réaction des autorités mauritaniennes sont restés infructueux. Aucune chance non plus du côté de la presse officielle. Les responsables des médias que nous avons pu rencontrer soulignent aussi que l'imprimerie nationale, seul imprimeur du pays, n'arrive pas à fonctionner normalement. Autre difficulté, la disparition des annonceurs, notamment publics, mais aussi les problèmes d'accès à l'information. Toutes choses qui ont fini par tuer, ou presque, la presse mauritanienne. Moussa Sambassi.
Aujourd'hui, en tout cas, la presse mauritanienne est dans une situation critique. Elle est, pour certains, pour utiliser l'expression d'un de mes confrères, elle est en situation de mort clinique, ou en tout cas dans le coma.
Pour l'heure, les médias internationaux ou des sites locaux comme CRIDEM s'efforcent d'occuper le terrain de l'information à côté des médias d'État. John Lyndon, VOA Afrique, Nouakchott.
Salut les amis, ici Roger Noutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Firmin Max Koyaveda. À la console, Curtis Binôme. Au micro, Claire Morin-Gibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.